sweet dose. Not feeling like it goes. Freak it up, let's have it now. Girl, don't you know I need it all the time? Fix me up with your sweet dose. Not feeling like it goes. Whoa, 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 time.
Fait un film.
Votre 7 à 8 cinéma, tous les mercredis sur Radio Campus 88.3 FM.
Avec nous, venez faire le plein de bobines. Rendez-vous à la prochaine séance. Alors, on se fait un film.
Le mercredi, de 19h à 20h, sur Radio Campus 88.3 FM.
Et bonsoir, chers auditeurs. Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Campus Orléans 88.3 FM. Et je suis très heureuse de reprendre cette émission consacrée à l'actualité cinématographique. Effectivement, c'est notre première émission de la rentrée. Et je ne suis pas toute seule. J'ai avec moi Gob. Bonsoir, Gob.
Bonsoir. Très heureux aussi de reprendre l'émission aujourd'hui. Et j'espère que je pourrai, que mes activités professionnelles me permettront d'être souvent avec vous pour cette saison.
Et Claude, bonsoir.
Eh bien, moi aussi, très ravi de retrouver nos fidèles auditeurs, car nous avons appris que nous avions un auditeur qui nous était fidèle, puisqu'il nous a envoyé un mail pour savoir quand est-ce que on reprenait nos émissions, et je crois qu'on peut le remercier très sincèrement.
Et le saluer.
Et le saluer.
Oui, ça fait toujours plaisir, effectivement, de savoir qu'on est un peu écouté. Et Arnaud, bonsoir.
Bonsoir.
Et donc Arnaud, avec qui tu fais normalement l'émission, enfin d'habitude avec Vincent, où on fonctionne un mercredi sur deux. Oui. Et donc là, on va reprendre l'année en fusionnant pour le moment nos deux équipes.
Tout à fait.
Et donc c'est avec plaisir qu'on te retrouve avec nous ce soir.
C'est partagé.
Et sur la prochaine émission, j'espère qu'il y aura Vincent aussi qui peut-être nous écoute en ce moment au travail.
On lui fait un petit coucou.
Oui. Et donc, pour commencer, à notre habitude, c'est toujours avec l'agenda, un petit agenda consacré à l'actualité cinématographique, avec quelques dates qui ont été repérées. Et donc, assez rapidement, j'ai repéré une projection qui peut être intéressante à la médiathèque d'Orléans. La projection d'un documentaire, El Castillo, de Martin Banchimol, je ne suis pas sûre de bien le prononcer, qui est un film argentin, franco-argentin, et qui est prévu donc ce jeudi, donc demain à... mince, j'ai pas noté l'heure, je pense que c'est 19h, je vais pas me tromper, je vais vérifier, mais je pense que c'est 19h à la médiathèque d'Orléans. El Castillo, donc un documentaire très intéressant sur que je n'ai pas encore vu, que je vais découvrir demain, mais c'est une héritière qui a donné son patrimoine à sa domestique, hein, qui lui a demandé donc de garder ce château, sauf que ça demande de l'entretien, de l'argent, et d'où le film parle, du coup, suit cette personne sur ses choix de conserver ce patrimoine ou pas. Donc, il a l'air très intéressant, ce film, donc je vous conseille de nous retrouver à la médiathèque d'Orléans demain. Et j'ai aussi, ça te fera plaisir, Claude, un autre documentaire que tu as beaucoup apprécié, Les Oubliés de la Belle Étoile, de Clémence Davigo.
Oui.
Qui est actuellement, qu'on peut voir, parce que les documentaires sont quand même difficiles à trouver, et il n'y a pas forcément de lieu, mais il y a des lieux en ligne, la plateforme Tank, qui est consacré au cinéma documentaire. Et actuellement, on peut donc voir le film sur cette plateforme. Je rappelle que Tank, c'est une plateforme qui est accessible pour les adhérents et adhérentes de la médiathèque d'Orléans, gratuitement. Donc c'est un privilège que nous avons à Orléans. Et sinon, vous pouvez toujours vous abonner à la plateforme. Ça doit être, je crois, 2 euros pour l'essayer, et ensuite je crois que c'est 6 euros par mois, donc c'est assez accessible pour une très bonne, très belle programmation, une très belle ligne éditoriale.
Et il faut dire que Tank est une plateforme qui a été créée à l'initiative du festival de documentaires de l'USAS, voilà, au moins 5 ou 6 ans.
Oui, c'est ça, un festival qui a lieu
en août, oui.
Et qui a aussi effectivement une belle programmation de documentaires d'auteurs.
Sachant que l'USAS, c'est la mecque du documentaire en France, puisqu'ils sont, ils forment des professionnels, et notamment en partenariat avec la fac de Grenoble, pour atteindre des masters de cinéma.
Tout à fait, oui. Oui, c'est vraiment la mecque, comme tu dis, du cinéma documentaire. Alors voilà de mon côté ce que j'ai pu repérer, ce qui pouvait être intéressant. Et je crois que Claude, toi, tu as aussi des choses à rajouter.
Oui, il y a un festival samedi prochain, 28 septembre à Orléans, qui s'appelle Les Invisibles, où c'est un festival de courts-métrages, mais où surtout participe une association de cinéma à laquelle, bien sûr, j'appartiens, qui s'appelle Onifilm. Et samedi, vous allez pouvoir vous initier, par exemple, à comment se servir d'une caméra en voiture, comment filmer au fond vert, mais avec des professionnels. Il faut savoir que cette association Onifilm, c'est une association d'amateurs, de jeunes, mais qui tendent à aller vers le professionnalisme. Donc, ils sont beaucoup conseillés et ils ont beaucoup de partenariats avec des professionnels, notamment avec, ce qui est animé par Jamel Debbouze, je suis en train de chercher... Ça me reviendra. Et puis, ils ont notamment, ils ont une maquilleuse qui est quasiment professionnelle. Donc, c'est une association, pas uniquement de promotion de cinéma, mais où ils créent des films, ils font des films qui sont passés au CARM, d'ailleurs. Et il y en a un prochain qui va de nouveau passer au CARM. Donc, notez cette association Onifilm. Et n'oubliez pas, si vous voulez vous initier au cinéma avec des professionnels, même vous pourrez faire des cascades. Vous avez des cascadeurs professionnels qui seront là. C'est le samedi 28 septembre. Donc, samedi prochain.
Ah, super.
Ok.
Très intéressant. Je reviens juste sur ma date à la médiathèque d'Orléans. C'est à 18h30 demain, jeudi 26 septembre, la projection du film El Castillo. Mais 18h30, le début de la séance. Voilà, en précision. C'est bon pour l'agenda, sauf si...
Oui, je termine simplement sur le film Les Oubliés de la Belle Étoile.
Oui.
C'est quand même un film qui n'a pas trouvé de distributeur.
Oui, c'est compliqué, effectivement, pour les documentaires.
Surtout sur le sujet traité.
Oui, je suis d'accord. C'est vraiment un documentaire très intéressant et malheureusement, beaucoup de ces documentaires ne trouvent pas de distributeurs. Et heureusement qu'il y a ces plateformes comme Tank pour leur donner une visibilité. Et parce que ces films sont souvent montrés dans les festivals, qui sont du coup réservés qu'à un public restreint, d'initiés, ou en tout cas, il faut être au courant que ces festivals existent. Et donc, heureusement, ces plateformes se sont développées. Voilà, donc sur Tank, Les Oubliés de la Belle Étoile. Voilà pour l'agenda, donc on va commencer...
On va parler des films qui sont au cinéma.
Oui, on va commencer nos chroniques. Je vous propose juste une petite courte pause musicale pour justement nous engager dans nos chroniques. Et pour commencer, la bande originale d'un film qui est encore à l'affiche, Emilia Pérez.
Dont on va parler juste après,
voilà.
Pour être raccord.
C'est ça, bah, tu as tout deviné. Il y a une certaine logique. Et donc, c'est une bande originale qui a été créée par Clément Ducol pour la musique. Et les chansons sont de Camille. Et donc, on va écouter le morceau El Mal. Et on se retrouve juste après pour en parler.
Químico que lo nombraron ministro de algo. El químico era cebo, comando a matar a sus socios y familia, a chingar. ¿Y qué hicieron con esos cadáveres? Ácido. Miren al juez Santos, mírenlo, no le importa nada. Solo los niños, los narcos, los tratan a tiros, los llevan afuera de todos sus pueblos natales. A cambio de eso, Santos reduce los juicios a falta de pruebas. Habla, esta gente habla, pero ahora lo van a pagar. Esta gente habla, pero ahora lo van a pagar, lo van a pagar.
Ustedes me sacan ventaja, todo el mundo los conoce, a mí nadie. O solo un poco, soy Emilia Pérez, una mujer mexicana, una mujer como las demás.
Miren al secretario de Educación, disque pública especialista en las empresas fantasmas. Hoy sus contratos sí son reales, pero las disque escuelas no se construyen ahora. Cuéntanos, chucho, ¿de dónde sacaste tu jet, tu alberga, tu hotel? Miren al gobernador, ¿quién votó por él? ¿La gente o el cartel? Hay que comprar, ay sí, uno a uno los votos de los campesinos. Paga, págale al cartel, bombón, ya están sentados en tu pinche trono.
a una mujer excepcional, Anita Moda Castro. Ella es la inteligencia andando, la inteligencia andando.
Miren al cojo, no eres cojo de nacimiento. En tu próximo puto retraso de pago acabarás en la silla de ruedas, lo sabe bien el que perdió su mano. Sé muy puntual si eres corrupto. Miren al querido Gabriel Mendoza, a con su nueva mujer, su nueva esposa, muy joven, muy rubia.
Ser amado es una tragedia, pero ver sus restos es una condena. Es una condena. Es una condena.
Et vous êtes toujours sur Radio Campus Orléans 88.3 FM. On vient d'écouter un morceau de la bande originale du dernier film de Jacques Audiard, Emilia Pérez. Et donc, eh bien, vous êtes toujours sur l'émission Alors on se fait un film. Et on va donc parler de ce film Emilia Pérez. Gob, tu veux commencer ?
Oui, je veux bien. Bah écoute, c'est très bien qu'on commence par Emilia Pérez. C'est quand même une belle leçon de cinéma. Moi, j'ai quand même beaucoup aimé le film. J'étais pas sûr d'être convaincu quand j'ai vu le sujet. Bon, en même temps, Jacques Audiard, c'est quand même quelqu'un qui nous a habitués à une constante de qualité depuis le début de sa carrière. Et puis, faut surtout dire que c'est comme un réalisateur qui s'attaque à chaque fois à des choses nouvelles, qui essaye toujours de nous surprendre. Et là, il faut reconnaître que le film nous bouscule, nous bouleverse, nous émeut beaucoup. Le parti pris de la comédie musicale fonctionne très bien. Là, on a écouté un morceau de la bande-annonce. C'est vrai que le Camille, la chanteuse, et le garçon qu'on travaille avec elle ont signé une très très belle comédie musicale. Et puis le film arrive à, je pense, à viser juste sur les différents thèmes qu'il aborde. Et puis c'est extrêmement bien joué. Les quatre actrices ont eu le prix ensemble à Cannes, c'est plutôt une bonne chose. Et moi, c'est un film que j'ai trouvé extrêmement brillant. On savait Jacques Audiard extrêmement brillant, et là je pense qu'il a encore élevé son niveau en termes de réalisation pour moi. Et il y a des scènes nocturnes, des magnifiques, des plans de ville. Enfin, vraiment, il a soigné ça, particulièrement l'éclairage, tout ce qui est lumière. Et moi, je trouve est vraiment remarquable. Et puis on est emporté par un espèce de torrent narratif et visuel. Et on en ressort vraiment secoué, ému, et en se disant qu'on a quand même vu un vrai grand film de cinéma, ce qui est quand même plutôt jouissif par les temps qui courent. Et moi, je suis très content que le film représente la France aux Oscars.
Merci, Gov. Claude, tu veux rajouter
Oui. Pour moi, d'abord, ce film, c'est une tragédie grecque. Tous les ressorts de la tragédie grecque sont contenus dans ce film. La fin, qui est extrêmement dramatique, que je ne vais pas dévoiler. Et de plus, il y a des moments d'opéra et de danse qui sont, dans ce rythme extrêmement élevé d'images, un moment de respiration, mais surtout, les paroles sont très importantes parce que c'est quasiment une analyse psychanalytique de la situation qu'ils ont vécue et de ce qu'ils vont vivre. Donc toutes ces, j'étais prêt à le voir une deuxième fois pour noter ce qui était dit dans les paroles de l'actrice américano-dominicaine qui est effectivement danseuse et actrice. De plus, j'étais constamment, m'intéressant au scénario, quelle va être, tu connais les règles du scénario, à un moment, il faut une confrontation, il faut un mur, Je dis, mais qu'est-ce qu'il va trouver? Et en fait, le fil conducteur, ce sont les enfants. C'est les enfants qui font le comment ça s'appelle, je suis en train de chercher le terme qu'on utilise bref, ça me reviendra. Quand tu es au sommet du scénario, que tu as la bascule, ça me reviendra. Bon, on en est là, et c'est les enfants. Et les enfants, notamment, sur quelque chose qui n'est pas cinématographique, parce que c'est l'odorat, l'odeur, là. Ce que, d'ailleurs, est très intéressant, sa femme ne reconnaît pas l'odeur, mais les enfants reconnaissent l'odeur, ce qui en dit long sur les rapports qu'ils avaient. Donc, ce film... Alors, il faut savoir que j'ai quelques informations sur ce film. Tout a été tourné en studio. Ils ont passé que 5 jours au Mexique. Bon, déjà. Et c'était très difficile au Mexique, parce que cette actrice américano-dominicaine, dont tu vas me trouver le nom, qui est la danseuse.
Parce qu'elles sont... Elles sont les danseuses, parce qu'elles sont plusieurs. Donc, il y a Gomez.
Celle qui est avocate.
Celle qui est avocate, c'est Zoé Saldana.
Oui. Alors... Comme elle est américaine,
ni danseuse ni chanteuse.
Oui.
Comme elle est américaine, il y avait la grève des artistes. Il fallait pas qu'ils se fassent gauler au Mexique pendant le tournage. Donc ils ont tourné extrêmement vite. Et c'est un film où il y a eu beaucoup beaucoup d'effets spéciaux. C'est pratiquement tout en effets spéciaux.
Oui, en post-production.
En post-production, oui. Et alors la question que j'allais te poser, je fais appel à ton féminisme, Céline. Le fait, beaucoup de gens ont dit, j'ai lu quelques critiques, ils parlent de c'est l'histoire d'un repenti. Non, c'est pas un repenti. Est-ce que c'est en devenant femme, sa sensibilité qui se transforme? J'ai pas la réponse. Mais
Toi, t'en penses quoi?
Je pense que effectivement, sachant qu'il y a des femmes qui peuvent être extrêmement cruelles, hein, et qui sont aussi chefs de gang, hein. Mais je pense que c'est effectivement cette sensibilité féminine qui fait, qui se comporte pas comme un repenti, parce que c'est pas un repenti dans la mesure où ne négocie rien avec la police, mais c'est uniquement la sensibilité et qui prend une toute place dans sa vie.
Donne-nous ton avis, Céline.
Alors, sur le film aussi. Arnaud aussi, tu l'as vu?
Non, il l'a pas vu, Arnaud.
D'accord. Bon, et bien, effectivement, je rebondis sur déjà la qualité du film, du travail cinématographique, parce que c'est quand même assez audacieux déjà en termes de scénario. J'y allais aussi à reculons de me dire mais où il va nous amener. Et puis c'est assez touchy quand même la transidentité. On peut vite déraper, mais je dois avouer qu'en termes de travail cinématographique, il y a un beau boulot parce qu'il mélange les genres, donc on a un changement de genre au niveau du personnage, mais aussi des changements de genre cinématographique dans le film, et c'est plutôt bien fait, même si j'étais un peu surprise par les passages chantés, dansés, mais au final ça fonctionne. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Il arrive vraiment à bien s'en sortir, et surtout de mélanger le polar, le mélodrame, la comédie musicale. Et je trouve ça assez bien travaillé. Donc j'ai aimé la forme, mais le fond, effectivement, me pose parfois question. C'est assez délicat, surtout en ce moment, la transidentité et comment on fait apparaître les personnages trans au cinéma. Et Audiard chaque cinéaste a une responsabilité de créer un imaginaire en mettant en place des personnages, des histoires, parce qu'il faut avoir conscience que c'est quand même extraordinaire comme situation où on a un chef de cartel qui a travaillé, qui a fait beaucoup beaucoup de morts dans sa mission de chef, et qui souhaite changer d'identité et être une femme. Et ce qu'il est au fond de lui, c'est qu'il est une femme et qu'il veut enfin passer le pas pour être une femme et être opéré. Donc c'est quand même extraordinaire comme, comme situation. Mais même si j'adhère quand même à l'histoire, il y a un passage quand même, moi, qui m'interroge. C'est au moment où la nature violente et possessive de Manitas, ce chef de cartel, ressurgit en fait à travers Emilia Pérez. Vous voyez ce passage Et là, je suis un peu, je m'interroge pas mal de savoir si c'est, est-ce qu'il n'y a pas un risque en fait de présupposer que les femmes trans ont une prédisposition à la violence. Et en fait, j'ai été dérangée par ce choix scénaristique parce que ça peut en fait influencer et de justement toi aussi tu te poser aussi. Donc la question, c'est que est-ce que même si c'est une femme trans, est-ce que au fond d'elle, cette nature, la nature virile toxique de l'homme n'est pas toujours là. Et je trouve ça un peu dangereux en fait. Et je trouvais que qu'il aurait pu en fait éviter cet aspect-là, ce choix-là.
Tu demanderas à des scientifiques qui fassent des études comparatives.
Mais non, mais enfin, je trouve que c'est quand même, c'est quand même une situation vraiment extraordinaire et vraiment fictionnelle de ce chef de cartel qui est, très violent.
Deux informations à ce sujet. Il a attendu que l'actrice transgenre ait terminé sa transformation pour pouvoir tourner. Elle n'avait pas terminé sa transformation, donc il a reculé le film pour pouvoir tourner. Et la deuxième...
Mais
la deuxième information, j'ai écouté une émission où il parlait de son film, il a dit, alors j'ai pas compris, il a dit « J'ai tourné en espagnol parce que je ne comprends pas l'espagnol et ça me donne de la liberté.
» Oui, vas-y.
Je vais juste dire un petit mot pour qu'on puisse passer un autre film, parce que le temps avance vite. Moi, par rapport à tout ce que vous venez de dire, honnêtement, quand j'ai vu le film, je pense que Jacques Audiard, il a voulu faire un conte. Pour moi, c'est un conte noir, et en plus très documenté sur la situation politique de l'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale et des pays qui ont subi les dictatures, les disparitions. Et c'est un film sur le rachat, sur la culpabilité et le rachat, et cette personne, effectivement, comme tu le disais, qui a été un épouvantable chef de cartel, qui a commis des crimes épouvantables et qui essaie quelque part de se racheter en retrouvant en rendant une dignité à ces gens qui sont morts. Et moi, je pense effectivement qu'on est effectivement dans un conte noir et que cette histoire d'agressivité et de tout, je pense qu'il montre surtout effectivement un personnage qui, malgré son changement de sexe, n'en demeure pas moins quelqu'un qui a été un épouvantable assassin, quelqu'un qui avait des réflexes violents et qui, pour moi, ne les a pas complètement perdus. Et moi, pour moi, le débat, il n'est pas plus loin que ça. Voilà.
Mais je m'interroge en fait. Moi, j'aimerais plutôt entendre des personnes qui sont trans en fait. C'est un parcours là qu'on voit que Audiard a écrit, qui est quand même très 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 particulier. Et il faudrait pas en fait que ça donne des arguments à des transphobes que des hommes peuvent changer de sexe, même de genre, uniquement pour ressembler à une femme en fait, pas alors que c'est au fond de ces personnes qui se sentent le genre qui n'a pas été attribué à leur naissance. Voilà.
Bah, moi je pense que le film quand même fait tout à fait ressentir ça. Que c'est au plus profond de lui et qu'il n'a pas d'autre alternative que de le faire.
Alors, oui. Moi, je parle vraiment juste de cette scène où la violence revient. Oui. En fait. C'est là, moi, c'est ça qui me dérange. Tout le reste ne me dérange pas. C'est juste ce passage-là. Je trouve que ce n'est pas un très bon choix.
Alors, le mot que je cherchais tout à l'heure en scénario, c'est le climax, le point culminant où il y a la bascule. Et la bascule, c'est effectivement...
Avec les enfants.
Je veux voir mes enfants. Et c'est là où le film bascule part sur un autre scénario.
Ah, mais oui.
Enfin, toujours le scénario, mais part sur une autre aventure.
On pense que le film est relancé. Ah oui, non, mais
c'est le climax. Je cherchais toujours le mot. C'est le climax, c'est une autre signification pour moi.
C'est très astucieux, ouais, au niveau scénario. Alors, on passe au film.
On va te donner un peu la parole, Arnaud.
Oh bah, c'est comme vous voulez.
Je crois qu'on peut... Eh ben, on va juste faire une courte pause musicale, du coup, pour... mais ça va nous permettre d'enchaîner avec Alien, que vous avez vu, je crois, Gob, oui. Hein, Arnaud. Oui.
On va pas s'attarder beaucoup sur Alien.
On ira assez vite, parce que bon, c'est passé un peu du réchauffé pour l'instant. Plusieurs points de vue, d'ailleurs.
D'accord. Bon, on en parle ou pas, du coup?
On peut en parler, mais...
Eh bien, on fait une pause musicale et ensuite on en parle, du coup, pas très longtemps, mais on en parle un petit peu. Allez, à tout de suite sur Radio Campus Orléans. Et vous êtes toujours sur Radio Campus Orléans. Et voilà cette musique très, très angoissante. Eh bien oui, c'est la bande originale d'Alien, Romulus, de Fede Alvarez, et dont la musique a été composée par Benjamin Wolfish. Eh bien Arnaud, toi qui as vu le film?
Oui.
Tu veux en dire quelques mots?
Ah oui, je veux bien en dire quelques mots. J'avoue que j'attendais quand même quelques... Enfin, j'avais quelques attentes, parce que la bande-annonce...
était un peu prometteuse.
Était un peu prometteuse. Et pour le coup, bah, je suis plutôt déçu, voire très déçu. À savoir que toutes les bonnes idées, justement, qui étaient vendues dans la bande-annonce se trouvent finalement assez minorées par rapport à des citations qui n'en finissent plus des films précédents. Et qui font que bah, tout ce qui pouvait être original, vraiment, est noyé dans la référence, la citation au mot près, les scènes. Enfin bon, il y a un exemple très marquant, c'est celui où il lui propose. Enfin, un des personnages initie un autre au maniement des armes, et on a quasiment au plan près, mais en tout cas à la ligne près, ce qui est dit dans le deuxième Alien, pardon.
Oui, dans celui de Cameron. Ouais.
Dans celui de Cameron. Et c'est pas le seul truc, c'est-à-dire que le film n'arrête pas de faire des emprunts à tous les films de la saga, ce qui fait que bah au final, voilà, c'est pas très intéressant. Enfin, c'est ce qui pouvait l'être ne l'est plus, parce qu'on est sans cesse sorti du film par les références. Par les références qu'on connaît déjà très bien, et quand on est en recherche d'originalité, bah là pour le coup, la déception, ouais. Enfin, voilà, c'est tout.
Pour moi, c'est un film qui s'inscrit dans une mythologie. Moi, je suis comme un spectateur énamouré du premier film de 79 que j'avais vu en salle, qui était un choc cinématographique
en
incroyable.
Salle, oui,
Et ouais, et là on est 40 ans plus tard, pas loin.
Oui.
Donc c'est Fede Alvarez qui reprend le truc, mais en plus Fede Alvarez, il avait fait un super remake de Evil Dead, qui était un truc gore dingue. Enfin moi, j'avais trouvé le film dingue. Et là, au moins, il s'emparait du sujet on aimait ou on aimait pas, mais il refaisait pas, il essayait pas de refaire du Rémy. Et là, il essaye de faire du Ridley Scott, il essaye de faire du James Cameron. Effectivement, comme tu dis, c'est du fan service en permanence, c'est des références en permanence. La référence tue la référence. Et moi, j'ai trouvé qu'il y avait zéro tension. Les personnages, ils sont pas intéressants. On sent que les personnages, ils ont été faits pour le public adolescent qui va voir les films d'horreur contemporains, et ils ont pas d'épaisseur, ils ont pas d'intérêt. T'as absolument pas envie de
Il y en a peut-être un qui sort son épingle du jeu.
Mais t'as pas envie de. Tu les vois mourir dans l'indifférence.
Ah oui.
Voilà. Et il y a pas de tension. Où est la tension? Où est le suspense entretenu par Ridley Scott? Où est le brio technique de Cameron? Voilà. C'est une toute petite série B. Sans beaucoup de. Ça laissera vraiment un tout petit flop dans l'histoire du cinéma. Et franchement, moi, je suis ressorti en me disant, mais où est la mythologie qui me fait rêver, qui me donne envie d'aller en salle depuis 40 ans pour voir la suite de cette saga.
Alors moi, pour l'avoir vu, alors je suis pas forcément une très grande fan assidue de Alien et je suis pas sûre d'avoir tout vu. Mais moi, la tension, moi, je l'ai bien ressenti quand même. Hein. J'ai fait peut-être bien 10 crises cardiaques pendant la séance. Après, oui, alors les références, je les ai pas forcément vues, donc j'ai pas été dérangée. Et c'est un film qu'on peut voir sans avoir vu les autres.
Bah, à la rigueur, c'est peut-être même conseillé.
Peut-être, oui, effectivement.
Parce que là, la surabondance, comme on disait, de références, je pourrais développer beaucoup, mais enfin, juste un petit exemple. Bon, on a un personnage qui se retrouve donc infecté, entre guillemets, c'est pas vraiment le bon mot, mais par le facehugger, enfin la créature qui vous attrape la tête, etc., et qui vous pond dedans. C'est censé, enfin jusqu'ici hein, dans la mythologie des différents films, c'est censé quand même durer quelques jours avant de produire son effet et d'avoir quelque chose qui te sort de la poitrine. Là, c'est une heure après, même pas. Mmh. C'est une demi-heure, le personnage, allez hop, ça y est, c'est fait, c'est plié.
Ah, d'accord.
Et en termes de tension, justement, bah, ce qu'instaurait le premier film, c'était cette attente angoissante de à quel moment ça va péter.
Mais je pense que ça pose effectivement, mais toute la question, je pense, moi, quand je suis sorti de ce film, j'ai dit, ça pose toute la question d'un cinéma contemporain qui est fait pour un certain type de public et où, effectivement, c'est fait pour un public qui ne supporte plus l'attente. Voilà. Et je pense que tu as tout un jeune public qui ne supporte plus l'attente. Et c'est quand même le public qui va avoir en majorité ce cinéma, on va dire, d'horreur. Mmh. Et ce public-là ne supporte plus l'attente. Et donc, effectivement, le style, les Ridley Scott, les grands réalisateurs qui sont maintenant âgés et qui ont cultivé ça, ils sont plus. On les sort du circuit.
Qui, au passage, ont plus ou moins détruit ce qu'ils avaient.
Oui, aussi.
Mais c'est aussi, là, il y a. Comment dire, juste pour terminer. Le film s'inscrit aussi dans une tendance qui est quand même pas nouvelle maintenant, plus trop nouvelle, celle du mashup movie. C'est-à-dire, je prends un morceau de tel truc, je prends un morceau de tel autre truc, etc. Bon, alors là, ça se concentre sur une seule saga, mais t'as l'impression de voir un collage c'est une créature de Frankenstein un peu, voilà, bon, bref.
Ok, donc c'était Alien Romulus, que apparemment les fans de la saga ne vous conseillent pas.
Voilà, si vous l'avez pas vu, vous pouvez commencer la saga par celui-là et peut-être que voilà ça.
Peut-être.
Mais bon.
Eh bien, Gob, tu veux enchaîner peut-être avec un autre film parce que nous avons perdu un des membres de notre équipe.
Il va revenir.
Donc, en attendant de peut-être voir le film.
On prépare Tatami.
Mais non, justement, je voulais attendre qu'il revienne.
Ah d'accord.
Te dire ça. Donc toi, qui as vu plein d'autres films.
Oui, j'ai vu d'autres films. Bah, je peux. Alors, il y en a certains sur lesquels on peut passer rapidement. Par exemple, Le Procès du chien. Voilà, c'est un film de l'actrice réalisatrice puisque elle signe son premier film, Laetitia Doche, qui est comme une actrice très intéressante. On la voit de plus en plus dans le cinéma français depuis maintenant une dizaine d'années. On l'a vu récemment dans le très beau film Le Roman de Jim. Et donc Laetitia Doche, là, elle est actrice et réalisatrice et donc elle campe une avocate qui défend, et c'est tiré d'une histoire réelle, qui défend un chien qui a mordu au visage une femme de ménage portugaise qui travaillait chez un infirme qui est joué de façon assez géniale par François Damiens. Et donc, elle arrive à obtenir que ce chien soit jugé comme une personne. Voilà. Et puisqu'elle dit après, parce que pénalement, enfin en tout cas au niveau pénal, un chien n'est pas considéré comme une personne, il est considéré comme une chose. Voilà. Donc elle dit après tout, des animaux de compagnie, c'est des gens qui vivent avec nous, donc on peut les considérer comme
ça se passe de nos jours.
Oui, on peut les considérer comme des personnes. Donc donc le chien est jugé.
Mais elle est l'avocate du chien.
Oui, elle est l'avocate du chien. Puisqu'elle le défend comme une personne. Et donc, alors ça donne des situations plus ou moins réussies, plus ou moins drôles, parce que ça vise la cocasserie. Mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans le film, c'est qu'effectivement, il y a une vraie interrogation. Derrière la cocasserie, il y a une interrogation sur le rapport qu'on a avec nos animaux de compagnie, quelle place a l'animal dans nos sociétés, et notamment, et aussi le contexte de la sauvagerie, puisque le chien, à l'origine, était un loup, et que. Est-ce que c'est la société qui a aseptisé petit à petit l'animal comme elle a aseptisé beaucoup d'autres choses? Voilà, donc y a derrière la cocasserie et derrière une comédie, on va dire, un petit peu louvedingue par moment, il y a quand même un arrière-fond de réflexion qui n'est pas inintéressant.
Juste, je crois que c'est cette année, il y a aussi eu un autre film, une comédie, donc où l'accusé, enfin c'est plus, comment dire, c'était pas au Moyen-Âge, mais presque.
Oui, la chèvre.
La chèvre, voilà.
Oui.
Oui. Alors bon, qu'il n'y a pas de profondeur, enfin, qu'il n'y a pas très profond.
Pas vraiment
mais non, mais je note que dans la même année, il y a eu quand même
deux
films qui questionnent, en tout cas, un peu.
Avec l'eau des revenus.
Le statut des animaux.
Voilà.
Eh bien, comme Claude est revenu, effectivement, on peut du coup enchaîner avec un autre film qu'on a vu, Tatami. Donc de Zahr Amir Ebrahimi et Guy Native. Bonjour Claude.
Bonjour, israélien et iranien.
Et iranienne réunie derrière le micro, le stylo et la caméra.
Oui, c'est ça qui est vraiment exceptionnel. Mais c'est un film.
Ça faut le noter, ça.
Oui.
Israélo-iranien, où donc Zahr Amir est iranienne et donc elle le co-réalise et elle est aussi actrice. Elle joue un des personnages principaux. Et Guy Native est donc israélien. Claude, est-ce que tu veux commencer par parler du film?
Oui, donc c'est une histoire vraie déjà pour commencer.
Non, c'est une fiction inspirée de faits réels.
De plusieurs faits réels.
Oui. Et c'est censé se passer. D'ailleurs, l'athlète à qui c'est arrivé est réfugié en France. C'est en fait la confrontation entre. C'est censé se passer au championnat du monde de judo.
En Géorgie.
Et cette athlète iranienne, normalement, devrait être sacrée championne du monde, mais elle risque de rencontrer, au cours de son parcours une athlète israélienne. Donc, il n'en est pas question. Donc, on assiste pendant tout le film à, en fait, se chasser-croiser entre, d'une part, les différents combats qu'elle fait qui l'amènent vers la finale, et je crois qu'on s'arrête en quart de finale. Et de plus, ce qui est intéressant dans ce film, c'est d'abord c'est très bien filmé, mais on peut reprocher le montage et le rythme qu'il aurait fallu que ce soit plus court pour que l'intensité dramatique soit très, très intense. Donc, c'est la confrontation constamment entre cet athlète et sa coach et les encadreurs iraniens qui font pression et on lui demande effectivement de déclarer forfait pour pas rencontrer cette israélienne. Et c'est le film bascule constamment entre ces pressions et elle qui veut absolument combattre et arriver. Donc, je vous dirai pas la fin, il faut aller le voir, mais moi j'ai beaucoup aimé cette intensité dramatique. Il y a des très jolis plans. Effectivement, la mise en scène pourrait être plus dense qu'elle ne l'est, par raccourcir, on commence, je crois, aux éliminatoires. On aurait pu commencer déjà vers les huitièmes, même un petit peu avant, de manière à ce que cette intensité soit plus importante, plus virulente, et ce qui est, alors là, la confrontation aussi, il y a cette confrontation avec les autorités iraniennes et l'athlète, et aussi avec sa coach, qui, elle, a vécu le même phénomène quelques années auparavant, où elle a déclaré forfait. J'en dirai pas plus, parce que notre ami Xavier va prendre le relais.
Je voulais juste, moi, Céline, comme tu as parlé, moi, je pense que c'est un film où c'est vraiment super important de parler de l'interpénétration qui peut se faire par moment entre la réalité et la fiction. Parce qu'effectivement, Zahir Ebrahimi, c'est l'actrice de ce film, moi, que j'avais trouvé formidable, qui s'appelle Les Nuits de Machad. Et alors, il faut se souvenir que quand Les Nuits de Machad y est sorti il y a à peu près 2 ans, c'est une actrice qui a dû fuir l'Iran. Pratiquement du jour au lendemain, parce qu'elle avait reçu des menaces de mort, parce qu'elle a tourné en ce film que le réalisateur Ali Abbasi a été obligé de tourner en Jordanie, parce qu'il pouvait pas le tourner en Iran, et parce que dans ce film il y a une scène de sexe qui, à mon avis, qu'on n'avait jamais vu dans un film iranien, une vraie scène de sexe où on voit vraiment toute une scène de sexe complète avec coït, et elle a tourné cette scène, et pour cette scène, et je pense aussi pour le film en général, qui était une critique très acerbe du régime iranien, elle a reçu des menaces de mort très claires, et elle a dû partir, quitter l'Iran pratiquement du jour au lendemain. Elle est maintenant réfugiée effectivement en France, où elle vit et travaille une partie de l'année. Et c'est donc très intéressant, moi je trouve, l'interpénétration avec ce film-ci, puisque à la fin du film notamment, elle a des mots où elle explique pourquoi elle fuit son pays, pourquoi elle fuit l'Iran, pourquoi elle est en quête de quoi elle est, et tout ce que dit Zahir Ebrahimi à la fin du film, c'est exactement les mots qu'elle aurait pu dire, et que peut-être même qu'elle a dit au moment où elle a dû quitter l'Iran en tant qu'actrice persécutée. Et ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant, et aussi le fait effectivement qu'elle co-réalise et qu'elle écrive le scénario de ce film avec un réalisateur israélien, c'est quand même extrêmement symbolique. Et moi, j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelque chose qui était super bien dans ce film, c'est qu'effectivement, comme le disait Claude, elle s'arrête en quart de finale, et là, il y a toute l'absurdité qui retombe, parce que on est dans une absurdité totale. On est face à un régime qui fait tout pour empêcher cette femme d'aller plus loin dans la compétition parce qu'elle risque de rencontrer cette Israélienne. Et au bout du compte, l'absurdité de la situation fait qu'elles sont éliminées toutes les deux. Et donc, toute l'absurdité retombe. Elles sont arrivées à un tel point de désobéissance qu'elles ne peuvent plus continuer à être dans leur pays. Et moi, j'ai trouvé qu'à ce niveau-là, le film était extrêmement réussi, parce qu'il y a cette interpénétration de la fiction et de la réalité qui rendent le film encore plus fort et encore plus intense.
Ah, effectivement, c'est un film qui est éminemment politique, qui dénonce la manipulation des athlètes de haut niveau, et plus largement comment une dictature comme celle de l'Iran limite la liberté des femmes. Et donc, c'est vraiment d'actualité entre les JOP, donc les Jeux Olympiques et Paralympiques, et puis le mouvement des femmes en Iran. Donc ça nous parle vraiment énormément. C'est un film qui est aussi intéressant parce qu'il met en scène le judo aussi en termes de sport, en fait,
qui est très rarement mis en scène au cinéma.
Au cinéma, ouais. Et j'ai trouvé aussi que la mise en scène était très efficace avec ce format carré du plan qui amplifie.
Oui, c'est filmé en 4 tiers.
En 4 tiers, oui.
Et dans un noir et blanc très soyeux.
Et qui amplifie vraiment cette pression qui est créée par le régime iranien. Donc ce sont des très bons choix. Après, c'est vrai qu'il y a certaines faiblesses scénaristiques, notamment avec les scènes aussi en Iran. Peut-être qu'on perd parfois un peu une tension, mais bon, je trouve que ça reste quand même un film globalement plutôt réussi. Et pour ce qu'il peut dénoncer, c'est un film qui est très important.
Je voulais dire une toute petite dernière chose très très rapide. Claude, tout à l'heure, parlait de l'histoire réelle dont c'était tiré. En fait, c'est une championne de taekwondo iranienne qui a fait les derniers Jeux Olympiques et qui effectivement s'est réfugiée en Géorgie. C'est aussi pour ça que le film se passe en Géorgie. Et elle a pris la nationalité géorgienne et elle a rencontré son ancienne compatriote iranienne en finale des derniers Jeux Olympiques. Et à la fin, elles sont tombées dans les bras l'une de l'autre. Moi, je trouve que c'est quand même beau de penser à ça quand on a vu le film.
Je termine en disant qu'il y a une chose qui est très bien analysée, c'est les rapports qu'il y a avec les instances supérieures du judo, notamment les responsables internationaux du judo qui gèrent le judo. C'est extrêmement intéressant.
Eh bien, merci. On peut enchaîner avec un autre film, Beetlejuice. Pour toi, Arnaud, oui. Beetlejuice, oui. De Tim Burton.
Ne m'en dis pas de mal, je vais aller le voir.
Ah bon, non, je ne vais pas trop en dire du mal, justement. Là, c'est un peu... Comment dire ? Encore une suite, aïe. Donc une suite d'un film qui est devenu culte. Oui. Par un réalisateur qui est quand même entre guillemets tombé en disgrâce depuis quelques films.
Oui, depuis un petit moment.
Enfin, en tout cas, qui avait plus trop la pêche. Et là, faut avouer que il retombe sur ses pattes, hein, on peut dire. Je préfère toujours le premier, l'original à la pas copie. Enfin,
mais c'est une suite ou c'est une adaptation ?
C'est une suite. On est quelques décennies, quelques décennies après le premier film.
40 ans.
Le premier est sorti en 88. Hein.
C'est ça. Ouais. Et donc. La famille retourne sur... retourne, je sais même pas s'ils l'ont quitté d'ailleurs. Enfin, le lieu original, si, oui, ils l'avaient quitté. Donc la maison dans laquelle on les a découverts quelques décennies avant, parce qu'il y a eu un décès dans la famille. Et, voilà, le film nous replonge dans le monde des limbes avec sa bureaucratie qui est là beaucoup plus développée que dans le premier film. Bon, c'est forcément un ressort qui est très drôle, qui fonctionne très bien. Il n'y avait pas beaucoup à inventer, je veux dire.
D'autant plus qu'il a repris le casting original.
Alors oui, à noter effectivement que le casting original est là. La plupart s'en sortent bien. Bon, Michael Keaton, lui, il est maquillé, donc je sais pas trop, mais bon. Non, la plupart s'en sortent très bien. Winona Ryder est parfaite. Catherine O'Hara, un peu, bref. Mais dans l'ensemble, le film est un peu bancal dans son scénario, dans son écriture, mais il a l'énergie qu'on ne voyait plus depuis un moment chez Tim Burton. Ce qui fait quand même assez plaisir. Donc globalement, plutôt oui, malgré quelques défauts qui sont finalement, enfin en ce qui me concerne, plutôt pardonnés justement par le côté jouissif du reste.
Eh bien, tu voulais dire quelque chose, Gob ?
Non,
j'ai cru
sur
que tu voulais...
Sur ce film-là, non.
J'ai cru que tu voulais intervenir. Donc... Est-ce que, du coup, il nous reste encore quelques minutes, mais pas longtemps ? Gob, tu veux parler de quel film ?
J'aurais voulu dire un mot sur un dernier film, parce que je l'ai trouvé remarquable, et que je crois qu'il passe encore au Carme. Il doit y avoir encore une ou deux séances. C'est un film qui s'appelle « À son image ». C'est un film français de Thierry de Peretti. C'est un réalisateur corse. Il avait déjà fait « Les Apaches » et un autre film, dont le titre ne me revient pas maintenant, mais qui tous les deux parlent de la Corse. Et là, il a fait une sorte de film définitif sur l'île de beauté, en retraçant en fait à travers l'histoire d'une journaliste reporter d'images qui tombe amoureuse d'un militant du FLNC. Et en fait, donc, il suit l'histoire du FLNC en Corse sur une quarantaine d'années. Et moi, j'ai trouvé le film très très bien écrit. C'est joué par des non-professionnels qui sont tous épatants. C'est super bien documenté. T'es au cœur de la Corse, t'es au cœur de cette espèce de clanisme qui exclut. On voit ce drame qui se noue avec ces gens qui finissent par se tuer entre eux parce qu'il y a l'opposition entre c'est un peu le théâtre, tu vois, en Espagne, c'est l'opposition entre ceux qui veulent rester dans la lutte armée et puis ceux qui disent à un moment, faut qu'on passe par la démocratie, faut qu'on passe par le vote, faut qu'on passe par le dialogue. Et donc le film, je te dis, est vraiment extrêmement bien documenté, et en même temps ça reste une vraie histoire romanesque avec une vraie dynamique scénaristique. Et moi, franchement, j'ai été très impressionné par ce film, et je c'est bien qu'il passe encore au Carme. Je pense que c'est un film qui a pas dû faire énormément d'entrées. Et franchement, moi, c'est du cinéma français. C'est une autre proposition de cinéma quelque part. Et c'est bien quand même que ce cinéma-là, un peu différent, existe.
Merci Gob.
Un film qui vient juste de sortir aujourd'hui, qui est un documentaire qui s'appelle River Boom. C'est traité sur le mode de la comédie des pieds nickelés par trois journalistes. Un est un journaliste du Figaro, l'autre est un Suisse qui doit être journaliste à la Suisse, à la télévision suisse romane, et puis un graphiste, je crois, italien. Ce film, en fait, il est né comme ça. C'est les trois compères.
Attends, tu peux donner le titre ?
River Boom.
Ah oui, pardon.
River Boom.
Oui.
Les trois compères décident de partir en Afghanistan juste après le 11 septembre. Et puis, ils filment en Super 8. Puis, on en reste là. Et qu'un des trois protagonistes déménage. Et en tirant sur des tiroirs hautes, pouf, il y a toute une série de c'est bon, on a oublié le film. Bon, on va faire un film maintenant. Et ce film a été le prix le prix des, comment ça s'appelle, pas du jury, mais des prix des spectateurs, comment dit-on,
La quinzaine ou
non, à Angers,
Angers.
Qui a été le prix. Je trouve plus mes bousses.
Le prix des spectateurs à Angers.
Oui, non, c'est pas le prix des, on dit pas ça.
Prix
on
du
dit,
public.
Prix du public. C'est le prix du public à Angers.
Et le public, c'est des spectateurs.
Et ce qu'il faut voir dans ce film, effectivement, c'est vraiment trois pieds nickelés. Hein. C'est raconté sur ce mode-là. Mais il faut voir les images de l'Afghanistan à cette époque. C'est impressionnant.
En Super 8.
Ah non, ils ont transformé après, mais ils ont tourné à l'époque en Super 8, oui.
Oui, mais à l'époque, le Super 8, ça faisait longtemps que c'était dépassé, quand même.
Bah, je...
Non, j'ai pas dit... attends, 11 septembre... Oui, tu trouvais encore des pellicules. Mais
oui, on en trouve encore aujourd'hui. Hein. Ah oui, c'est compliqué, mais après... Comment...
Tu demanderas à notre ami Bertrand Mandigo comment il filme.
Oui, mais c'est là, par rapport à du journalisme, je trouve surprenant le choix de... Mais bon,
je vais vérifier.
Gob, tu veux rajouter
un tout petit dernier mot avant qu'on se quitte. Il y a deux films hyper importants qui sortent quand même aujourd'hui et qui font tous les deux polémiques. Moi, je trouve toujours ça très intéressant quand des films font polémique. Donc, il y a Le Mégalopolis de Francis Ford Coppola, qui a quand même pas fait de film depuis 13 ans ou 18 ans, je sais plus. Enfin, bon, le Twixt, je sais plus quand c'était exactement. Mais en tout cas, le film a fait énormément polémique à Cannes et je pense qu'il va continuer à le faire maintenant qu'il est dans les salles. Et il y a un autre film qui fait, je vois déjà partout, j'ai commencé à lire des articles dessus, qui fait extrêmement polémique, qui est la nouvelle version d'Emmanuel par Audrey Diwan, la réalisatrice de le film sur l'avortement là, tu sais, Lynn, qui tirait du roman d'Annie Ernaux, ça y est, j'ai oublié le titre, moi aussi, Claude, ça commence à la mémoire commence à me manquer.
Annie, il y a Annie dans le titre.
En tout cas, donc ces deux films dont j'espère qu'on pourra vous parler dans la prochaine émission. Je pense qu'on vous en parlera dans la prochaine émission, voilà.
Oui, et
fait avec une sensibilité de femme, alors que le premier film avait été fait une sensibilité d'homme, et Jules Zaskin a vécu sur ce film pendant toute sa vie.
Il touche encore des droits dessus.
Eh bien, on en parlera, on essaiera effectivement d'en parler à la prochaine émission qui aura lieu bien maintenant dans deux semaines. Donc toujours le mercredi de 19h à 20h sur Radio Campus Orléans. Eh bien, je vous remercie pour cette première émission de la rentrée et donc de cette nouvelle année 2024-2025. Je vous dis donc une très bonne soirée.
Allez au cinéma.
Oui, hein. Allez voir des films.
Il y a de quoi faire.
Allez dans les salles parce qu'il y a de très bonnes conditions de projection. Allez voir aussi les séances où il y a les réalisateurs et les réalisatrices. Bougez de chez vous, rencontrez les gens et écoutez toujours Radio Campus Orléans. Oui, Claude.
River Boom, c'est une caméra vidéo achetée sur place en Afghanistan. Rectification.
Ok, alors.
Allez, on doit rendre l'antenne. Oui. Merci à vous trois.
Bye.
Merci à toi, Céline, pour avoir maîtrisé magnifiquement cette nouvelle console.
Oui, merci.
Et vous avez vu, il pleut, donc il faut aller au cinéma.
Exactement, raison de plus.
Allez, bonne soirée.